Eh bien, je vous remercie. Merci à Vincent de Corbiter et à Henri Goldman de me donner l'occasion, au fond, de décliner de ma conception de la laïcité. Ce n'est qu'une conception parmi d'autres, puisqu'on a parlé de plusieurs laïcités. Et il est vrai que la laïcité est un concept qui demande de la clarté. Il est très flouté aujourd'hui. Il est très troublé. Mais parce que beaucoup s'en emparent d'abord. On sait bien que c'est un mot que l'on retrouve dans la bouche de l'extrême droite, pas plus loin que chez Marine Le Pen. C'est son prénom encore ?
Marine Le Pen.
Marine Le Pen, oui. La laïcité, ben, c'est effectivement, c'est la civilisation contre le barbarisme, c'est le conservatisme contre l'aventure, c'est le fort contre le faible, c'est une manière de défendre une certaine conception de la société. Chez les traditionnalistes, qu'ils soient religieux ou non, la laïcité est souvent affectée, vous le remarquerez, d'un qualificatif. On parlera de laïcité ouverte, comme s'il pouvait en exister une fermée, et on imagine bien que entre l'ouverte et la fermée, il y a déjà des différences de conception. La laïcité est également énervée, je dirais, même par, je dirais, ce que j'ai envie d'appeler, de manière un peu provocatrice aujourd'hui, une certaine gauche compassionnelle, iréniste, qui confond souvent le terme avec la tolérance. Non pas la tolérance au sens politique du terme, mais la tolérance au sens banal, au sens, je dirais, dévoyé du terme. Un petit peu dans l'esprit de ce qu'on fait dire à Voltaire, à tort d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais prononcé la phrase, « Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous permettre de les exprimer. » Cette notion-là de la tolérance, en fait, qui n'est rien d'autre que la liberté d'expression, ne présente pas beaucoup d'intérêt par rapport au débat laïque, au débat sur la laïcité, mais pour la bonne et simple raison qu'elle n'a pas de valeur ajoutée. Si elle concerne les idées, elle ne nous intéresse pas dans la maison du libre examen, car les faits, les idées doivent pouvoir être débattues, c'est du choc des idées qu'on peut effectivement progresser, contribuer à faire avancer les réflexions. Donc en termes de conception, de doctrine, la notion de tolérance n'a pas tellement d'intérêt. En termes de fait, elle en a encore moins. Vous savez comme moi que... Je vous en prie, madame Enfray, merci.
En
ce qui concerne les faits, mais les faits, ils ne doivent pas être tolérés, ça ne se discute pas, il est établi ou il ne l'est pas. Et en matière de personne, la tolérance ne présente aucun intérêt, car ce n'est pas de la tolérance dont les hommes sont créanciers, c'est bien de respect, ce qui est une autre conception, une conception totalement différente. La tolérance, nous l'avons vu auprès de certaines communautés, dans des états qui étaient théocratiques, c'est la tolérance de l'Ouma vis-à-vis du peuple juif, par exemple, qui paye la taxe pour pouvoir survivre, c'est ça la tolérance. Donc cette tolérance-là, si vous voulez, ne m'intéresse pas, et c'est pourtant avec ce concept-là que l'on a tendance à confondre très souvent, trop souvent aujourd'hui, la laïcité. Et c'est pas tout. La laïcité est un concept tellement compliqué qu'il n'a même pas sa traduction dans une autre langue que les langues latines. Donc, on sait très bien de quoi on parle en français. On peut encore, à la limite, le savoir en espagnol, en italien ou en portugais. La laïcité est bien connue dans l'Amérique latine. Mais au-delà du monde latin, la laïcité n'a pas véritablement de traduction. Ce qui, pour une conception qui a une prétention à l'universel, est évidemment très ennuyeux. Très ennuyeux. Les anglo-saxons, eux, et on le verra tout à l'heure pourquoi d'ailleurs, sont attachés à une conception humaniste, ils parlent de sécularisme, d'humanisme, de tolérance dans le sens politique du terme, j'y reviendrai, les Allemands aussi. Et donc ce terme a finalement une ère de compréhension relativement étroite, si on veut l'imaginer à l'échelle du monde. C'est tellement vrai que si vous passez simplement la frontière linguistique, vous verrez qu'en néerlandais, le mot n'a pas donc pendant. Le centre d'action laïque, en néerlandais, ça n'existe pas. Dat bestaat niet. Il existe de Mensnu, qui est une association qui prétend effectivement à un certain humanisme, à l'humain au sens neutre du terme, mais le terme laïcité en tant que tel n'existe pas. Donc vous voyez que, au fond, le débat est compliqué. Et pour couronner le tout, nous avons même dans le monde francophone, en Belgique, une singularité. Si vous voyez le centre d'action laïque, eh bien, il a tendance à définir la laïcité. Je dis une tendance parce qu'il faut corriger le tir, mais on a tendance à considérer qu'il y existerait deux laïcités, et on tombe dans le panneau que j'évoquais tout à l'heure, en l'affectant d'un qualificatif, il y aurait une laïcité politique aux côtés d'une laïcité philosophique. C'est dire si on n'est pas sorti de l'auberge. Et on assimile et on identifie à la laïcité philosophique ce qui en fait serait de l'athéisme ou de l'agnosticisme. En fait, la laïcité politique serait celle qui permet au centre d'action laïque d'être subsidié pour assister moralement, ce sont les termes exacts, je pense, du texte, une communauté dite non confessionnelle. Pour moi, ça se situe aux antipodes de la laïcité, puisque la laïcité, par hypothèse, est une notion universaliste et non pas communautaire ou communautariste. Donc il y a une sorte de paradoxe, une sorte d'oxymore à parler de laïcité en matière de laïcité dite philosophique. pour moi, et ce n'est pas pour offrir le flanc à une critique, puisqu'on parlera probablement de laïcité au pluriel, mais le concept de laïcité doit être clair, très clairement le concept de laïcité politique. Et ce concept de laïcité politique, on ne doit pas assimiler ni à la tolérance que j'évoquais tout à l'heure, ni à ce principe de neutralité suisse qui serait le propre de nos gouvernants, eh bien, il a toute une histoire. Et qui ne se réduit pas à la simple séparation de l'Église et de l'État, comme on a trop souvent tendance à le dire. Et cette histoire, il est important de vous en parler, car elle explique en partie les hiatus, les contresens, les quiproquos qui peuvent naître, qui peuvent apparaître et rebondir ici et là dans des sociétés différentes. Au fond, pour bien comprendre ce qu'est la cité, il faut partir du XVIIIe siècle. Et plus précisément, d'un personnage extraordinaire qui a vraiment développé le concept de la tolérance à un moment qui était particulièrement précieux pour l'histoire de l'humanité, au sortir des guerres de religion. John Locke invente le concept, ou en tout cas va décliner le concept de tolérance. Et il faut lui donner du contenu à ce concept. Ce n'est pas ce que j'évoquais tout à l'heure, sinon ce n'est pas le droit d'être relativiste, le droit d'être dans la compassion et dans l'acceptation du propos d'autrui. La tolérance, c'est un concept qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le constat de la contingence des appartenances. Ça paraît banal aujourd'hui, mais ce n'est pas si bien répandu au niveau conceptuel. La contingence des appartenances, pour faire simple, parce que je dois être rapide aujourd'hui, ça, vous allez comprendre ce que c'est simplement de considérer que le christianisme ne peut pas exister avant Jésus-Christ. Ça veut dire que si le christianisme existe depuis 2000 ans, eh bien pendant 73 000 ans, le christianisme ne pouvait pas exister. S'il existe, c'est parce qu'on est né ici, à un endroit donné, dans une civilisation chrétienne, à une certaine époque, qui n'est pas n'importe laquelle. Je pourrais faire la même chose à propos du judaïsme. Ben, le judaïsme ne peut pas avoir plus de 5000 ans. Et il ne peut pas apparaître n'importe où. On est donc chrétien ou juif en fonction du lieu et de l'époque à laquelle on est né. Même chose pour l'islamisme, qui est encore plus jeune. 600 ans après le Christ, à l'Égypte, effectivement, on ne peut pas être musulman avant l'Égypte. Donc on voit que Locke a ce constat merveilleux qui est de dire, mais au fond, ces guerres qui ont justifié, effectivement, des concepts de vérité, des vérités totalitaires, la vérité du prince, parce qu'on identifie à ce moment-là le prince, le pouvoir public avec la religion, un prince, une religion, une langue, un peuple, un territoire. Eh bien, Locke a cette idée magnifique de dire, mais les religions ne sont pas un critère suffisant que pour, effectivement, être la loi commune de toute une nation, de tout un pays, de toute une région. L'appartenance est affaire de contingence. Une fois qu'on a constaté ça, quelle conclusion en tirer? Eh bien, la première conclusion qu'on va en tirer, c'est que si nous n'héritons pas nécessairement de la religion de nos pères, il faut permettre à l'individu, en toute dignité, de faire son choix. Il doit pouvoir choisir librement cette religion qui est contingente. Je ne dis pas qu'il est contre une religion plutôt qu'une autre, mais l'individu devrait être capable de choisir librement une religion plutôt qu'une autre. Et cela, au nez et à la barbe de qui? Ben du prince, évidemment. Le prince ne peut plus exiger que l'individu, que le citoyen, que l'étranger voyageur adhère, participe à la religion qui est la sienne. C'est un bond gigantesque dans l'histoire de la pensée, c'est un bond gigantesque dans l'histoire de la dignité humaine. C'est vraiment l'annonce d'un courant, le courant des Lumières. Voltaire, vous verrez, va s'y référer très grandement. C'est donc le deuxième principe, outre le principe de la contingence d'appartenance, c'est évidemment la possibilité pour chacun de s'autodéterminer en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Le troisième pilier, c'est la séparation de la sphère publique et de la sphère privée. Quand bien même le prince aurait une religion, quand bien même serions-nous tous baignés dans une religion d'État, eh bien, dans son fort intérieur, l'individu peut exposer dans sa sphère privée quelque religion qu'il choisit. Nous ne sommes pas là dans la laïcité. Nous sommes dans le concept de tolérance. Il y a néanmoins deux exceptions à ce principe de tolérance, et il est intéressant de les relever. La première exception, elle est circonstancielle, et on la comprend bien. La tolérance peut s'appliquer à tout le monde, sauf aux catholiques. Il faut dire qu'on sort d'une guerre terrible, là le sang n'a pas encore séché, il est inconcevable, même pour un esprit comme Locke, de considérer que les catholiques puissent profiter, bénéficier de cette tolérance. Mais je mets cette circonstance sur le côté. La deuxième exception en principe qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est que la tolérance ne peut pas s'appliquer à celui qui n'a pas de religion. Autrement dit, le sujet peut choisir quelque religion qu'il souhaite, à condition d'en avoir une. Il ne peut n'en avoir aucune, Un homme sans foi est un homme sans loi, incapable de créer du ciment social. Ça, c'est la conception de la tolérance du point de vue, je dirais, historique, archaïque. C'est une conception qui va évoluer très rapidement. Dans une deuxième étape, si vous voulez, de l'histoire de la pensée, ce sera une conception qu'on qualifie aujourd'hui d'élargie, et qui va permettre un jour de considérer que non seulement le sujet de droit, est susceptible d'avoir la religion qu'il choisit, mais également de n'en avoir aucune. Et ça, c'est un nouveau bond dans l'histoire de la pensée, puisque on considérera dorénavant que le ciment social ne passe plus nécessairement par une foi, par une religion. Nous sommes toujours là dans la tolérance. Lorsque cette tolérance va passer le channel, lorsqu'elle va effectivement se confronter, d'abord à des États catholiques, lorsqu'elle va se confronter à l'athéisme ou à l'agnosticisme, elle va évoluer. Elle va évoluer et son fer de lance, avec évidemment tout le courant des Lumières, avec le courant des philosophes, le courant des encyclopédistes, son fer de lance va être tout simplement l'école. On va voir émerger la notion de laïcité, on va vraiment la voir apparaître avec les teneurs, avec les défenseurs de l'école qui sera l'école laïque, qui sera l'école moderne, qui sera l'école égalitaire, qui sera l'école mixte, qui sera l'école lieu de partage des connaissances, lieu d'égalité, indépendamment des origines, du sexe ou de quelque différence que ce soit. Et je dirais que les champions de cette école-là, étonnamment, ils vont émerger en Belgique. C'est la Ligue de l'enseignement qui, cette année, fête ses 150 ans d'anniversaire. C'est la première Ligue de l'enseignement et un certain nombre d'enseignants, de pédagogues, de grand renom vont effectivement comprendre que l'école est ce par quoi tout commence. Et le lieu où on va permettre l'émancipation d'individus, où on permet à l'individu de sortir de son coron familial, culturel, cultuel, pour partager quelque chose de plus, un savoir commun, un savoir universel. D'abord, le respect de soi, la connaissance de soi-même, la connaissance de l'autre, à travers la connaissance et l'émancipation. Liberté d'examen, liberté de pensée, liberté d'expression, sont autant de critères, autant de paramètres qu'il va falloir exploiter au niveau même de l'école, qui n'est donc pas un lieu de foi, mais un lieu de savoir. Ce que je sais, je ne le crois pas, et ce que je crois, je ne le sais pas. Nous aurons des grands noms qui vont s'associer à ce courant. Après, la Ligue de l'enseignement belge va émerger 2 ans plus tard, la Ligue de l'enseignement en France, et bien sûr la Ligue de l'enseignement en Espagne avec une figure extraordinaire. L'un des auditoires ici porte son nom, c'est Francisco Ferrer, l'un des premiers martyrs de la laïcité, si j'ose dire, puisqu'effectivement c'est sous les balles des pelotons catholiques qu'il tombera en criant « Vive l'école !» et en pardonnant à ceux qui vont le détruire. Voilà un petit peu l'histoire de la laïcité. Ces ingrédients-là vont composer, des années plus tard, les éléments constitutifs du Centre d'Action Laïque, tout simplement. Donc voilà le parcours, et voilà où nous mène le concept même de laïcité. Elle va, en quoi est-ce qu'elle est différente de la tolérance? C'est que, à partir du moment où on parle de laïcité, il ne sera plus question d'accepter que le prince, ou sa délégation, ou les pouvoirs publics, les princes soient partisans d'une confession ou d'une absence de confession. La laïcité va exiger quelque chose de plus du pouvoir, c'est effectivement de se désincarner par rapport à la question de la confession ou du non-confessionnel. Au-delà donc de la tolérance, que ce soit un État, il serait par hypothèse un pouvoir public qui soit athée, eh bien il n'a pas à dire qu'il l'est. S'il voulait être d'une religion, il n'a pas à dire qu'il l'est, il doit se sortir de là. La laïcité exige la démocratie, c'est-à-dire que les individus choisissent leur destin singulier ou collectif par la voie des urnes, par la voie d'une expression démocratique qui est basée elle-même sur une émancipation, sur une compréhension, sur une capacité pour l'individu de se choisir et de se connaître. Voilà où émerge le concept de laïcité.
Je vais vous demander maintenant d'embrayer sur la question de la diversité.
Oui, je peux embrayer sur la question de la diversité. En fait, je suis obligé de passer par un deuxième cran. C'est la prétention de cette laïcité, en tout cas, d'être construite, non pas sur cette exigence, je la poursuivre. On part effectivement d'une certaine conception de l'individu. Cette laïcité-là est un véritable humanisme où chacun est libre de se choisir, on l'a dit, d'une manière confessionnelle ou non confessionnelle, mais surtout d'avoir les capacités de se choisir, c'est-à-dire avoir accès à cette liberté de choix, cette autonomie de la volonté qu'on évoquait tout à l'heure, une liberté qui passe nécessairement par un rapport égalitaire et non pas hiérarchisé, et effectivement qui va s'entretenir, se construire par ce que certains appellent la solidarité, d'autres en d'autres temps parlaient de fraternité. Mais je préfère le terme solidarité, car effectivement la solidarité, elle ne se mérite pas, c'est un dû. C'est une créance de l'individu par rapport à la puissance publique. À côté de cela, il y a encore un troisième, une d'autres valeurs, qui sont les droits fondamentaux, dont je prétends effectivement à l'universalité, car je ne connais pas de cas, comme disait d'ailleurs Stéphane Hessel, de cas où un individu se soit plaint du respect de ses droits fondamentaux. Les États s'en plaignent, certes, parce qu'ils nous opposeront régulièrement l'exception culturelle ou cultuelle. Les religions prétendront parfois qu'ils n'ont pas de caractère universel, car elles y voient une vertu qu'elles s'approprient très facilement. En réalité, je pense qu'il faut avoir cette revendication très simple de dire et d'affirmer le caractère universel des droits de l'homme et le caractère universel de ce qui constitue les valeurs laïques. La diversité dans tout ça. En fait, quand vous me parlez de diversité, vous ne me parlez pas de diversité. Vous abordez, en arrière-toile de fond, la question effectivement du multiculturalisme. Et le multiculturalisme, pas n'importe où. On le voit dans deux aspects, si j'ai bien compris. D'abord, le respect dans le contact entre la multiculturalité et la puissance publique, ou ses délégués, c'est-à-dire les fonctionnaires. Le sujet qui vous préoccupe est de savoir pourquoi pourrions-nous imposer une certaine forme de neutralité, une absence de signes ostentatoires, ostensibles, convictionnels au niveau des fonctionnaires. Ça, c'est la première pierre d'achoppement, si j'ai bien compris. La deuxième pierre d'achoppement pourrait être pourquoi exiger des enseignants qu'il en soit de même. Et en fait, la troisième pierre, c'est pourquoi exiger des enfants qu'ils ne portent pas de signes convictionnels apparents, qu'ils ne s'expriment pas en quelque sorte sur leurs convictions. Eh bien, pour les raisons que je viens d'évoquer. On a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau parler de la femme d'ouvrage qui serait employée par l'État ou du concierge qui garde son école et qui n'aurait donc qui ne détiendrait aucune parcelle d'autorité, je crois que c'est une erreur. Toute personne qui effectivement est censée représenter d'une manière ou d'une autre les pouvoirs publics, c'est-à-dire toute personne qui est censée fournir un service essentiellement public, on pourra parler des services privés ultérieurement, eh bien doit. Parce qu'elle est dans la position du fort contre le faible, parce qu'elle est dans la position de celui qui a le pouvoir contre celui qui ne l'a pas, doit être en mesure, je dirais, de prendre sur lui et d'avoir la modestie de ne pas exprimer ses convictions. Ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions que ses convictions doivent s'exprimer, me semble-t-il. Et pourquoi cela? Mais pour permettre précisément à l'usager de les exprimer. Parce que dans le domaine public, sur la voie publique, dans l'espace public, eh bien, chacun doit pouvoir être libre d'exprimer ses convictions sans avoir ne serait-ce que la suspicion que les expressions de ses convictions puissent avoir une quelconque influence sur la manière dont l'État va lui rendre service. J'essaie d'être le plus rapide possible puisqu'on m'a demandé de l'être, mais je trace les grandes lignes et les grands toits. J'ouvre le débat, en tout cas. En ce qui concerne les enseignants, mais vous l'aurez bien compris, les raisons sont à peu près pareilles, sauf que là, la responsabilité est plus grande. L'école étant effectivement ce lieu, non pas de multiculturalité, mais d'interculturalité, on reviendra sur la question, où on extrait un enfant de son milieu familial, de son milieu culturel, de son milieu confessionnel éventuellement, pour le confronter à des connaissances dont la vocation serait universelle, pour être confronté à des cultures, à des traditions différentes, sans a priori, sans être enfermé dans la sienne. Ce lieu d'ouverture, ce lieu d'émancipation, effectivement, doit permettre une absolue neutralité sur la manière d'appréhender le monde, sur la manière d'appréhender la connaissance et le savoir. Quant aux enfants, là, le fondement, la ratio légis est totalement différente. Il ne s'agit pas d'exiger de l'enfant une impartialité quelconque. Il ne s'agit pas d'exiger de l'enfant qu'il renonce à exprimer ses convictions. Il s'agit simplement, s'il s'agissait d'exprimer ses convictions, ben, ça serait l'objet d'un débat. Et je suis, vous l'avez bien compris, pour le choc des idées. Mais lorsque l'on affuble un enfant d'un voile, d'un vêtement, une seconde peau, qui ne lui permet pas de changer d'avis d'idée comme il le souhaiterait, et qui le désigne en quelque sorte dans sa singularité à l'autre, effectivement, on réduit très largement le champ des possibles, le champ de l'intelligence, le champ de la rencontre. On va vous dire qu'en empêchant un enfant de se mettre une pancarte sur le front, quelque part on porte atteinte à sa manière de s'exprimer. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Lorsque l'on paye un homme sandwich, est-ce qu'on considère que l'homme sandwich s'exprime? Non. Il exprime bien sûr des idées, il exprime un panneau, il exprime un produit, mais il ne s'exprime pas lui-même. Quand on colle un foulard ou une croix ou une kippa sur la tête d'un enfant dans un milieu scolaire, je ne pense pas qu'à ce moment-là, on permette à l'enfant de s'exprimer. Quand on colle une cocarde sur la fesse d'un cheval et qu'on le fait courir, le cheval ne s'exprime pas. Donc, l'idée pour moi est effectivement de permettre cette étape d'apprentissage qui est le propre de l'enfance jusqu'au moment où, c'est bien simple, jusqu'au moment où l'enfant a reçu cette capacité de décider par lui-même, a reçu les outils de son émancipation, a reçu les outils d'une connaissance suffisante que pour avoir la maturité de se choisir. Au fond, ce que je réfute dans le port de signes ostentatoires, ostensibles, au niveau de l'enfance, c'est tout simplement l'imprégnation. L'imprégnation que les sociologues connaissent bien, vous connaissez tous l'expérience des oies de Lorentz, si vous cassez des œufs d'oisillons devant un chercheur, eh bien les oisillons, en s'éveillant, en ouvrant l'œil, vont prendre le chercheur pour leur maman et vont la suivre et vont le suivre comme s'il s'agissait de leur mère. C'est ça l'imprégnation. Les confessions l'ont bien compris, puisque la famille et l'école sont effectivement les deux enjeux majeurs de toutes les confessions qui soient. Eh bien, c'est pour échapper à cette imprégnation, pour permettre à l'individu, en tout échappement, en toute émancipation, en toute dignité, en toute indépendance, de se choisir son destin, et en particulier sa religion, ou d'en changer, à un moment où il en aura la capacité, qu'effectivement, il me paraît, non pas à 15, 16 ou 18 ans, l'âge m'importe peu, mais à un moment où, effectivement, nous pourrions considérer, et ce sera bien sûr toujours un lieu très conventionnel, au moment où on pourra considérer qu'il a la capacité, l'intelligence suffisante que pour se choisir. Alors on me dira, oui, est-ce qu'à 13, 14 ans, une petite fille peut commencer à... Oui, si on considère que la majorité sexuelle correspond à la maturité intellectuelle. Je ne pense pas que ce soit le cas, à titre personnel. Mais je pense qu'effectivement, l'âge n'est pas le critère. Peut-être qu'on doit situer ça dans la deuxième partie des humanités, ou, comme on disait dans le temps, à l'occasion de l'examen de maturité. Mais il va de soi que pour toute autre forme d'étude, la liberté d'expression, effectivement, doit retrouver immédiatement sa place. Et donc, la seule chose qui m'empêche effectivement de souscrire à ces lectures, qui sont des lectures alternatives, et que je ne considère plus pour le compte alors laïque, parce qu'elles sont effectivement, elles sont compassionnelles. Hein. Elles provoquent finalement ce que l'on cherche à éviter, parce qu'elles désignent à l'autre, elles l'enferment quasiment dans une confession, dans une religion. Eh bien, ces lectures-là, je pense, font plus de tort à l'humanisme, à l'humanité, à l'émancipation des hommes et aux populations que l'on veut précisément faire échapper à cette identification, elle fait plus de tort qu'autre chose. D'autant plus que, je terminerai par là, que les tenants de cette conception, je pense, mais ce sera vérifié tout à l'heure par Henri qui me contredira ou non, c'est ce que j'ai cru lire en tout cas, c'est que les tenants de cette conception ont tendance à considérer que c'est laïque qui, au fond, se permettent de critiquer la religion, une pratique religieuse, une idéologie en son. Eh bien, en le faisant, deviennent islamophobes, et derrière le mot islamophobe, ils font le triptyque de la religion, de la culture et de la race. Et on va jusqu'à parler d'un racisme sans race. C'est extrêmement dangereux de pratiquer ce genre d'amalgame, parce qu'effectivement, au profit d'une discussion qui devrait être libre, qui devrait être généreuse, qui devrait être s'effectuer sans peur, on met derrière la porte quelque chose de bien plus grave, qui construit les peurs, qui justifie l'extrême droite, qui identifie définitivement des peuples, des histoires, des cultures et des religions. Voilà, je m'en tiendrai là pour le moment et je me tiens à votre disposition.
Merci pour cet exposé qui, je crois, a entre autres le mérite de la clarté. Je donne la parole à Henri Goldman qui, je crois, ne pratique pas l'amalgame et ne va certainement pas se précipiter, je suppose, sur le soupçon d'islamophobie, mais qui est tout à fait libre de sa manière, de toute manière, d'aborder la discussion.
Non, mais j'aimerais bien y répondre, mais je ne le ferai pas tout de suite. Alors, il faut préciser, Vincent, mes réticences, non pas à discuter avec Henri Bartholomew Sen, mais à discuter de laïcité. Hein, c'est vraiment un concept que vous avez très bien enraciné dans l'histoire, mais justement, je me suis rendu compte, encore en vous entendant, à quel point ça n'est ma propre histoire que de façon assez récente. Et en fait, je suis amené, parce que c'est comme ça que j'ai pensé cette rencontre, à un peu expliciter du lieu d'où moi je parle. Hein, parce que j'imagine que mes idées, ce que je pense, ne tombent pas totalement du ciel. Hein. Donc je suis issu des deux côtés d'un père et d'une mère qui sont des juifs polonais, qui ont immigré en Europe avant la guerre, dont la famille est partie, la plus grande partie à Treblinka, qui sont passés par Auschwitz et qui ont fait connaissance après la guerre. Et c'est dire que dans ma famille, le grand récit de la lutte contre les calotins, etc., ça apparaissait un petit peu comme du folklore local. Hein. Par contre, on avait une histoire aussi par rapport à toute cette affaire de discrimination. Hein. Donc mes parents s'étaient détachés de la religion de façon extrêmement calme, on ne m'en a jamais parlé, j'ai dû reconstruire ça par après, mais mes grands-parents étaient croyants, et étaient visiblement croyants. Il faut savoir que être juif en Pologne entre les deux guerres, ça n'est pas tout à fait une religion désincarnée qu'on peut uniquement porter dans son fort intérieur, qu'on peut rendre totalement invisible. On est dans des religions traditionnelles, qui peuvent tout à fait évoluer, qui évolueront toutes, mais des religions traditionnelles, ça doit se voir. C'est des religions qui incorporent en fait pratiquement tout l'habitus culturel, la manière de se vêtir, la manière de se serrer la main, ou de ne pas se serrer la main, la manière de se rencontrer, la manière de faire de la musique, etc. Et je trouve que dans la Pologne, entre les deux guerres, il y avait un antisémitisme extrêmement virulent, ça vous savez, tout le monde le sait, même si le mot antisémitisme n'est peut-être pas le plus approprié. Parce que vous, ceux qui ont étudié la question, savent qu'il y a eu à un moment donné, quelque part, un passage de l'antijudaïsme chrétien vers l'antiracisme, l'antisémitisme racial. La Pologne, pays profondément catholique, fonctionnait avec l'antijudaïsme chrétien. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir de la malédiction par la conversion. Si on abandonnait les signes visibles de son identité juive, on pouvait passer à travers, tandis que pour un antisémite racial, à la limite, plus c'est caché, plus c'est pervers. Et il se trouve que dans les services publics polonais, à l'exception de la Galicie qui avait été autrichienne, donc beaucoup plus ouverte à la diversité culturelle, etc., alors qu'il y avait à cette époque 3 millions de juifs en Pologne, 10%, plus à Varsovie, à Cracovie et à Lodz, dans les grandes villes, eh bien dans l'administration publique, dans la justice, dans les chemins de fer, eh bien il n'y en avait quasi pas, 0,00 quelque chose. Hein. Et je me suis imaginé, je reconnais pour les besoins de la rhétorique, que ma grand-mère aurait postulé un emploi au chemin de fer. Et on lui aurait répondu de façon très sympathique, parce que je m'imagine qu'elle aurait été en face de quelqu'un qui était très ouvert, on lui aurait dit « Oui, vous pouvez avoir le poste, mais vous retirez cette perruque. » Et ma grand-mère, je pense qu'elle aurait pris ça comme la dernière des humiliations, parce que pour elle, porter la perruque était une norme de comportement décent dans l'espace public. C'est comme ça qu'elle le vivait, et je ne pense pas qu'elle aurait aimé, mais je ne pense pas que vous l'appliquiez à elle aussi, qu'elle aurait aimé qu'on la considère comme un homme sandwich. Alors, ce qui m'a troublé par rapport au débat, c'est que là, évidemment, c'était la Pologne réactionnaire, cléricale, qui votait à droite, pire à l'extrême droite. Mais si ma grand-mère avait postulé dans les chemins de fer ici, elle aurait eu exactement la même réponse. Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, cette affaire. Donc je me suis dit, j'ai aussi l'habitude d'argumenter sur les principes, inclusifs, exclusifs, etc. Mais j'ai eu envie pour ce soir de faire un exercice auquel je n'étais pas tellement habitué. C'est de beaucoup plus l'aborder par les conséquences que par les principes. En me disant, ok, sur les principes, ils ne sont encore pas incarnés. Mais quelle est la conséquence pratique des principes que je défends, et est-ce que je suis prêt à assumer ces conséquences? Et c'est là que je pense qu'il y a un gros problème. Donc je dirais tout de suite, et je vais prendre quelques cas. Je ne vais pas argumenter sur les enseignants, je ne défends pas le port de signes confessionnels pour les enseignants, pour des raisons que Jean-Philippe Schreiber connaît. Je suis d'accord avec les propositions des assises de l'interculturalité qui n'ont pas demandé ça. Je ne le demande pas non plus. Mais je le considère, moi, comme un compromis culturel, et non pas comme une affaire de principe. Il y a deux problèmes que vous avez identifiés, et que je considère comme effectivement des problèmes, qui est l'enseignement obligatoire, et qui sont les services publics. Pour la partie en contact avec le public. Quand vous dites qu'une femme de ménage est dans un rapport du fort au faible par rapport à l'administré, je trouve que vous poussez très fort le bouchon. Et je pense qu'en dehors de l'espace culturel français, il n'y a personne qui n'imagine une seconde qu'une femme de ménage représente l'État. Je pense que c'est particulièrement tordu de penser une chose pareille. J'espère que le CAL va protester d'ailleurs contre la nouvelle déclaration gouvernementale du gouvernement suédois, qui a d'ailleurs une clause qui porte là-dessus et qui demande la neutralité visible pour les personnes en contact avec le public, uniquement pour celles-là. Donc vous devriez logiquement leur dire, vous n'allez pas assez loin parce qu'une grande partie des services publics n'est pas concernée par votre interdit. Mais soit, vous avez surtout ciblé ces deux gros problèmes. Il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres. Alors par exemple, c'est peut-être rien du tout. Bon, vous savez ce que c'est l'article 60 ? L'article 60, c'est
que je quand même
je vais l'expliquer, évidemment.
Le connaît pas.
C'est horrible, vous savez ce que c'est, mais je vais l'expliquer. Comme ça, ceux qui savent ne croient pas que je les prends pour des ignares. L'article 60, c'est un dispositif de mise à l'emploi pour permettre aux personnes d'entrer dans les droits sociaux, de personnes qui n'ont droit à aucune allocation de chômage. Et c'est un système qui leur permet donc, avec un contrat signé par le CPS, d'être mis à la disposition d'une association. C'est le CPS qui signe le contrat, qui paye la rémunération, mais la personne ne travaille pas dans le service public, elle travaille pour une association qui fait partie de la liberté d'association. À la ville de Namur, il y avait un règlement, comme il y en a pratiquement dans toutes les villes en Belgique maintenant, qui impose dans la fonction publique communale la neutralité. Est arrivée une femme qui portait le foulard et qui avait trouvé un accord avec une administration pour travailler dans le cadre de l'article 60. Elle n'aurait pas travaillé dans le service public, elle aurait travaillé dans le cadre de la vie associative qui représente toute la pluralité que nous avons de ce beau pays, où cette pluralité est vraiment très large. Le président du CPS de Namur, Philippe Defeyte, a souhaité que cette personne n'entre pas formellement dans le règlement communal. Eh bien, il s'est fait rentrer dans le chou par une structure pour laquelle j'ai la plus grande estime pour d'autres raisons, qui est la CGSP, qui a exigé au nom de la laïcité que cette personne jamais ne puisse être engagée dans le cadre de l'article 60. Avis a été demandé au Centre pour l'égalité des chances, qui est quand même l'institution de référence en Belgique là-dessus. Le centre pour l'égalité a dit il y a controverse pour le service public, c'est vrai, donc je ne prends pas position là-dessus. Mais ça, ce n'est pas le service public, donc cette personne a droit à avoir son article 60. On n'a pas tenu compte de cet avis. Deuxième exemple que je vais donner, c'est l'enseignement supérieur. Je suis très content que vous ayez cité Francisco Ferrer, parce que j'avais pris quelques notes avec moi. Eh bien, imaginez-vous qu'à part les universités qui sont impeccables sur cette question-là, pratiquement toutes les autres écoles de tous les réseaux publics et du réseau libre non confessionnel, je pense à Elia Prigogine, ont des règlements d'interdiction de port de signes religieux, et à Francisco Ferrer, qui a marqué dans le règlement d'ordre intérieur, qui est ville de Bruxelles, ce temple de la laïcité, il est interdit de se présenter en portant des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse. Il faut savoir qu'en France, avec la loi de 2004 interdisant le port du foulard dans les lycées et collèges, tous les travaux qui ont accompagné la commission Sazi ont bien dit « ça ne concerne pas les majeurs ». En Belgique, on n'a pas de loi, et donc ça concerne aussi les majeurs, sur une base décentralisée, et j'aimerais bien entendre le cas dire publiquement ce que vous avez dit tout à l'heure, que quand ils sont majeurs, on n'est pas concerné. Alors on va arriver maintenant à deux questions beaucoup plus controversées. C'est deux que j'ai citées. C'est le service public et c'est l'enseignement obligatoire. Service public, on a eu une petite affaire avec Thiris, il y a plus d'un an de ça. Bon, Thiris, l'office de placement, c'est pas totalement la fonction publique, mais c'est presque la fonction publique. Hein, puisque l'autorité, c'est pas directement le ministère, mais c'est presque ça. Il n'y avait pas, comme dans la plupart des institutions, on n'a jamais mis dans un règlement de travail ce genre de choses. Depuis quelques années, ça se multiplie. Et vous savez aussi qu'un règlement de travail, ça doit toujours être concerté entre l'autorité, et les organisations syndicales. Et puis c'est annexé au contrat de travail. À la suite d'un accord avec Thiris, on a mis donc un truc un peu bizarre d'abord dans le règlement de travail. On a d'abord mis l'interdiction de tous les couvre-chefs, ce qui est de la discrimination indirecte. Après, on a été plus clair, on a dit les signes religieux. Et la première conséquence de cette interdiction, c'était d'envoyer une lettre de licenciement à 3 employés, après leur avoir demandé s'ils voulaient bien retirer le foulard, ils ont dit non. Une des 3 a été engagée avec son foulard il y a 20 ans. Aucune des 3 ne travaillait en front office, aucune des 3 n'avait de contact quelconque, principe, sauf évidemment de hasard. Ça, on peut l'avoir sur le trottoir juste à l'entrée aussi. Mais aucun contact fonctionnel avec le public. Toutes les 3 étaient syndiquées, d'ailleurs. Hein. Et aucune des 3 n'avait quoi que ce soit dans son dossier disciplinaire. L'affaire est passée au tribunal du travail. Une conciliation a duré pendant 1 an. Elle est terminée maintenant. On est reparti dans le volet judiciaire. Voilà. Donc, un des résultats pratiques, ça a été ça, de mettre ses femmes à la porte. On pouvait évidemment dire que c'était leur faute. Elles n'avaient qu'à retirer leur foulard. Et maintenant, la question la plus compliquée, la plus délicate, parce que là, on voit des effets pratiques et qui ne sont pas uniquement individuels, c'est ce qui se passe dans l'enseignement. Donc, je suis bien conscient du débat. Et je ne considère pas que ceux qui trouvent qu'on doit interdire sont des crapules racistes. Je connais suffisamment d'antiracistes que je rencontre sur tous les fronts de discrimination par ailleurs, et avec lesquels nous divergeons là-dessus. Hein, et je suis très avare de l'accusation d'islamophobie. Vraiment, j'essaie de ne pas la lancer à tort et à travers. Mais donc, on sait bien... On n'a toujours pas de loi. On sait bien la situation actuelle. Dans une ville comme Bruxelles, nous avons encore 4 lycées qui l'autorisent, 2 publics et 2 catholiques. Ça a eu un effet, ça a eu des tas d'effets. Ça a eu des effets de domino. Hein, ceux qui l'interdisaient, ce qui s'est passé à Anvers d'ailleurs, ceux qui l'interdisaient ont repoussé des familles vers les écoles qui l'autorisaient encore, modifiant l'équilibre interne qui avant était visible et le mettant en tension. Mais c'est pas ça que je veux soulever. C'est l'effet qu'on découvre maintenant, c'est-à-dire la création d'un réseau musulman. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On sait très très bien que maintenant, le réseau catholique, il n'a pas grand-chose de catholique. Qu'on fonctionne dans le cadre d'un quasi-marché, qu'on essaie d'avoir des parts de marché, qu'on essaie d'attirer les bons parents et d'écarter les mauvais. Et on connaît tous des gens qui ne sont pas plus catholiques, et qui envoient leur gosse dans une école catholique parce que c'est près de chez eux, que la bonne réputation, parce que les copains y vont, etc. Donc, Et d'ailleurs, l'école catholique fait tout pour gommer au maximum. Ils veulent même créer des cours de religion musulmane pour éviter ce qu'ils appellent la concurrence déloyale avec le public qui, lui, peut les attirer par ces cours de religion musulmane. Je trouve ça incroyable. Donc, ils vont apprendre le Coran à la lueur de l'Évangile. Ça fait partie de la charte fondatrice. Hein. Mais on sait aussi que ça fait partie d'un climat. Hein, et qu'on est dans une situation où il y a une espèce de suspicion qui vise toutes les familles musulmanes pour des tas de raisons et aussi des raisons sociales. Hein. Dans les écoles mixtes, par exemple, les personnes issues de l'immigration, dont une partie est musulmane, mais les parents qui ne sont pas aussi à l'aise avec la culture française, par exemple, pour qu'ils osent prendre la parole devant des aéropages, d'avocats et de médecins dans leur réunion de parents, il faut qu'ils aient beaucoup de courage. Hein. Donc, quand ça s'ajoute avec un sentiment de mépris par rapport à des choses importantes pour eux, il faut s'accrocher. Et donc maintenant, on a eu cette année l'ouverture de deux écoles primaires musulmanes, et l'an prochain, c'est à peu près sûr, parce qu'on a tout fait pour les retarder, on aura l'ouverture de deux lycées. Bon, pour le moment, il n'y en a pas. Hein, des écoles secondaires musulmanes, il n'y en a pas. Il y en a une privée, une boîte à bac, à Molenbeek. Et maintenant, on en aura une à Anderlecht et une à Skardbeek. Hein. On a aussi une école qui s'est ouverte à Anvers, qui n'est pas proprement parlée musulmane, qui est marocaine. Hein, et où toutes les filles ne portent pas du tout le foulard, et où tous les parents ne sont pas spécialement des rats de mosquée. Hein, mais c'est vraiment une réaction à ce qui est vécu comme un climat d'ensemble. Et là-dedans, ce qui est en train de se mettre en place, ça n'est pas du quasi-marché. Je doute que dans ces écoles, iront autre chose, d'autres enfants, que des enfants musulmans. Alors, pour moi, c'est emblématique, hein, de ce qui est en train de se mettre en place avec un système de discrimination en cascade. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du privé, mais on sait très bien ce qui se pratique dans le privé. Là aussi, bon, j'ai travaillé pendant 6 ans au Centre pour l'égalité des chances. On a été amené à traiter de cas comme le cas de Emma ou de Club, etc., où maintenant des entreprises privées inscrivent dans leur charte d'entreprise le principe de neutralité et essaient de se présenter comme des entreprises de tendance, ce qui est un retournement total de la philosophie de base de ça. Hein. On voit bien que dans les associations, c'est exactement pareil, hein, que des tas d'associations se déclarent de tendance. Et ce qui est en train de se passer sur le terrain de l'emploi et sur le terrain scolaire, c'est véritablement la mise en place d'un apartheid et un véritable reflux dans la mixité. Et c'est là que je voudrais vous demander, Henri Bartholomew Sten, si vous êtes à l'aise avec ça. Hein, si vous sentez qu'une certaine façon d'appliquer certains principes qui en soi peuvent parfaitement se défendre, est-ce que vous êtes à l'aise avec la conséquence de ces principes qui est qu'on va arriver vers une société qui est exactement celle dont vous ne voulez pas? Parce que, en fait, pour le moment, moi j'ai le sentiment qu'on a le choix entre deux modèles et que les partisans de ces deux modèles pratiquement font cause commune sous prétexte de s'opposer. On a d'un côté une certaine conception qui, au nom, selon moi, d'une conception biaisée de l'universalisme que je perçois, je sais que c'est discutable, comme un communautarisme majoritaire, mais c'est aussi ma perception d'enfant de l'immigration qui me fait sentir ça, hein, parce que, pour reprendre le mot de Catherine Laborde, je perçois cette société comme une société catholique, c'est-à-dire comme une société qui est basée sur un compromis spécifique, qui n'est pas universel, qui est spécifique à l'histoire de cette société. Donc d'un côté, il y a ceux qui défendent cette forme-là d'universalisme, pour moi, pervers, et ceux qui sont pour un véritable multiculturalisme juxtaposé, hein, où chaque communauté s'organiserait séparément avec un code de compatibilité minimal. Hein. Et ce que moi et mes amis on essaye, et je suis d'accord qu'il faut passer par des compromis, et il faut éviter l'irénisme, hein, on essaye de se demander quelles sont les conditions pour avoir, par exemple, une seule école publique inclusive, quelles sont les conditions pour que les familles, telles qu'elles sont aujourd'hui, acceptent d'y envoyer leurs enfants. Je sais, ça passe par de la négociation, je suis désolé si le mot est vilain, ça passe par ça aussi. Parce que si on n'essaye pas ça, alors la pente vers laquelle nous sommes, c'est celle-là. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à ça? Et alors, je vais vous poser une petite question. Alors, elle a l'air ridicule, elle a l'air comique, mais je dois vous la poser. Est-ce que vous êtes à l'aise avec un principe de neutralité qui ne concerne que les femmes? Parce que je n'ai jamais vu la moindre proposition pour écarter de rien du tout des gens qui portent la barbe.
Ça vient.
Ça vient, mais je voudrais avoir votre point de vue là-dessus.
Bien.
Une réplique, et puis une réplique à la réplique, et puis la salle.
Oui. Non, il faut quand même revenir quelques instants sur le, sur le discours avant d'aller à la question. Comme l'a dit Henri Goldman, il divise le monde en deux. Et moi, quand les gens divisent le monde en deux, j'ai toujours un petit moment, un temps d'arrêt. Il est rare que l'on puisse effectivement être binaire dans une réflexion aussi complexe que celle qu'on vient d'évoquer. Il ne faut pas diviser le monde en deux. Il n'y a pas d'un côté une conception qui s'affronte à une autre conception. Il y a une inflation de conceptions. Et je crois que ce n'est pas de nouveau dans un choc frontal de conception que vous allez régler les problèmes que vous évoquez. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que votre discours, dans la perspective d'arriver aux conséquences pratiques, est en fait une succession d'anecdotes. Pour certaines, véritables. Pour d'autres, vous dites vous-même, inventées. Pour illustrer le propos, pour colorier le propos. Je pense que c'est une mauvaise façon de procéder, parce que si sur le plan de l'argumentation c'est très convaincant, effectivement, on prend un cas peut-être très hypothétique, on en fait quasiment un principe général, eh bien, si sur le plan de l'argumentation c'est très convaincant, sur le plan démonstratif, ça n'a quasiment aucune valeur. Car on pourra toujours trouver un cas particulier, singulier, une exception, qui effectivement va appeler davantage à l'émotion qu'à la réflexion. Je ne connais pas le cas particulier de ces dames qui ont été remerciées à l'Orbem, si je ne m'abuse. J'avais une autre histoire, c'est la même chose. J'avais une autre histoire en tête, effectivement, qui était un petit peu plus complexe que ce que vous racontez. C'est une dame qui, effectivement, était susceptible, c'est ça, qui avait reçu une promotion, qui travaillait en seconde zone et qui pouvait effectivement passer au guichet. Et qui, au guichet, devait enlever le foulard qu'elle pouvait porter précédemment. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et qui a refusé, effectivement, de retirer son foulard, et qui a donc, si j'ai bien compris, perdu l'accès à sa promotion. Je peux, comme vous, m'en plaindre, je peux trouver ça délicat et triste, mais je veux dire par là que ce n'est pas une conception de la laïcité plutôt qu'une autre qui va effectivement permettre de réduire ce genre de paradoxe, de circonstances exceptionnelles où effectivement, systématiquement, on peut trouver des difficultés. Alors, la question que vous me posez, est-ce que je trouve normal que certaines personnes aient à souffrir de leur religion, de leur appartenance culturelle, de leur ethnie, de leur origine? Poser la question, c'est y répondre. Hein, vous l'avez bien compris. Ce que je pense, moi, pouvoir faire comme reproche à ce que vous dites, c'est le reproche que vous me faites. Je crois, effectivement, qu'en sous-estimant les populations d'origine musulmane, puisque c'est là que vous visez, notamment lorsqu'elles apportent leur enfant à l'école, en vous imaginant que vous les discriminez en empêchant les enfants de porter des signes distinctifs, bien vous vous trompez. Je pense que vous sous-estimez, de nouveau dans un esprit tout à fait, je dirais, compassionnel, mais quasiment, je ne vois pas pourquoi ces gens-là ne seraient pas en mesure de comprendre comme les autres qu'effectivement il y a une ratio légiste, il y a une raison au comportement, et je ne vois pas non plus en quoi consiste la souffrance d'un enfant à qui on va proposer de suivre un cours de mathématiques avec ou sans foulard. Il ne faut quand même pas pousser le bouchon non plus, ce n'est pas le martyr qu'on leur fait subir. Et si on leur explique la ratio légiste, on leur explique pourquoi il est important, à un moment donné, de mettre son vêtement au vestiaire, ou sa croix au vestiaire, ou sa kippa au vestiaire, parce que vous parliez, effectivement, qu'on n'était pas dans la neutralité féminine, vous m'excuserez beaucoup, mais si demain, un professeur de mathématiques vient avec une kippa, ou on permet à un enfant de venir avec une kippa, on s'agira bien de petit garçon dans le petit fille. Ma conception des signes ostentatoires n'est pas uniquement tournée, ce que vous avez tendance à penser, vers le monde musulman. J'exclus de la même manière la petite croix qu'on met entre les seins, la kippa, le col romain qui sangle le cou d'un malheureux ou effectivement le foulard dit musulman ou dit islamique. Je ne fais pas de différence. C'est ça mon approche. Elle n'est pas ciblée. Donc voilà, il ne faut pas faire de racisme inversé. Je pense que ça, ce discours-là, vous savez que les communautés musulmanes, hein, elles sont en train de se séculariser à une vitesse extraordinaire, bien plus rapide que ne l'a fait la société catholique. On a fait une enquête récemment au CAL, j'en parlais d'ailleurs avec Jean-Philippe Stamet récemment, où, non, c'est plus exactement, c'est le fruit d'une réflexion à partir d'une enquête, d'une étude qu'il a réalisée, on se rend compte qu'effectivement, 86% aujourd'hui des populations d'origine musulmane en Belgique, soit vivent leur religion d'une manière parfaitement privée, comme le vivent les catholiques de tradition, c'est-à-dire qu'ils vont à la messe, au baptême, au mariage et au décès, et que 6% sont déjà carrément athées ou agnostiques. Donc, ce mécanisme de sécularisation qui habite, je dirais, toutes les sociétés modernes, et en particulier les démocraties, et je ne pense pas que ce soit une perte pour la démocratie, eh bien, effectivement, n'attendent pas, effectivement, d'être traités avec de faire de la discrimination dite positive. Cette discrimination-là, elle n'est pas positive, elle enferme les gens dans une communauté, dans une culture, et dans une foi. Ce n'est pas le lieu de l'école, je m'excuse beaucoup. L'école n'est pas le lieu où on exprime sa foi. Le lieu est l'école est un lieu où on partage quelque chose d'universel. Ce sont des valeurs. Et la foi, je m'excuse beaucoup, c'est une affaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de contingence. Libre aux enfants de remettre leur kippa, de remettre leur foulard, remettre leur croix au sortir de l'école quand ils rentrent chez eux et quand ils vivent leur vie dans l'espace public. Voilà mon point de vue. Bah, la réponse, en tout cas, à votre question.
Henri.
Donc, je ne vous accuse absolument pas de ne cibler qu'une religion. Mais moi et mes amis, en général, on considère que... Les petites croix chrétiennes et les kippas juives sont presque les victimes collatérales de quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Et c'est vrai que dans tous les textes des gens qui ont voulu légiférer, il n'y a aucune exception. Mais cela dit, sur la masse, on sait quand même en gros ce qui est visé. Alors, je ne dis pas par vous, c'est pas du tout ça. Mais on sait bien quel est le phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui. On sait bien que maintenant, ce qui tourne autour de l'islam sur le plan discursif commence à nous envahir de façon... On en a vraiment un petit peu marre, quoi. Et que donc là, il y a un phénomène d'une toute autre ampleur que ce qui reste un petit peu de cléricalisme chrétien et de la petite marge de juifs orthodoxes qui n'ont jamais fait, que même sur les propos folkloriques ridicules, n'ont jamais fait peur à personne. Alors, par rapport à ça, je n'ai jamais parlé de discrimination positive, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'effectivement, les familles musulmanes peuvent parfaitement comprendre tout ce qu'on leur dit. Je voudrais simplement soulever deux choses ici. Le discours que vous tenez, il ne se tient en Europe qu'en France et en Belgique. Dans aucun autre pays d'Europe, ça ne vient même à l'idée. Si vous prenez un pays comme l'Autriche, on ne peut pas dire que l'extrême droite n'existe pas. En Autriche, ça ne vient même pas à l'idée de commencer à légiférer sur la manière dont les élèves s'habillent. Alors, je ne veux simplement, c'est aussi simplement pour nous désenclaver notre universel est aussi parfaitement situé. Ces pays-là sont ni pires ni meilleurs que les nôtres en matière d'intégration des populations diverses ou en matière de racisme, ou en matière d'extrême droite, toutes ces choses. Simplement, cet argumentaire-là, ça m'intéresse qu'on se demande pourquoi il devient tellement vigoureux dans les gens qui parlent français. Parce que pour moi, il y a un lien avec l'histoire de la République française par rapport à ça. Maintenant, quoi qu'on pense de ça, même si justifié, je vous ai demandé, je sais bien, c'est un procédé aussi, je vous demande de répondre, vous n'êtes pas forcé de le faire. Mais une des conséquences de ça, c'est vraiment ce qu'on voit maintenant. C'est véritablement la création d'un réseau musulman. Si vous pensez que c'est contingent, que ça ne va pas se développer, là je pense que vous mettez la tête dans le sable. Je pense que c'est une des conséquences, pas uniquement, des interdits, pas uniquement de toutes les fermetures, pas uniquement des gens qui se récrient quand on veut discuter des menus scolaires, ce genre de choses-là. Bien qu'il y en a beaucoup, c'est pas si difficile. Et je signale tout de suite que c'est un des points sur lequel je suis tout à fait d'accord avec le CAL, qui est sur le menu alternatif végétarien. Mais c'est ce climat-là qui est en train de créer cet appel. Et je vous assure que des gens qui vont mettre leurs enfants dans les écoles musulmanes ne sont pas des rats de mosquée. C'est simplement des gens qu'on en a marre du mépris et de l'humiliation. C'est ça aussi que je dis. Est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences? Maintenant, je veux bien qu'on en reparle dans 2 ans. Mais reconnaissez au moins que si jamais ça devait être une conséquence, c'est quand même une défaite de quelque chose, ça. On peut pas dire qu'on s'en tape. On ne peut pas dire que si demain, il y a une multiplication d'écoles musulmanes et que de plus en plus de gens retirent leurs enfants pour aller les mettre là, qu'on aura progressé dans une société de vivre ensemble et d'inclusion. Voilà. Alors, dernière chose, si j'ai parlé de ma grand-mère, à part pour faire un petit effet, c'est aussi pour qu'on comprenne que la manière dont était vécue la religion juive en Pologne et la manière dont est vécue encore aujourd'hui la religion musulmane dans l'immigration, et je ne pense pas que ce serait éternel cette histoire. Ce sont des situations où la religion n'est pas que de la conviction philosophique. C'est tout à fait autre chose. Et le fait de mettre un foulard ou ne pas le mettre, ça n'est pas de la conviction philosophique. Et pour moi, cette acceptation-là relève de l'acceptation de la diversité culturelle. Dans les sociétés traditionnelles, les manières traditionnelles de vivre, la religion est la manière dont on nomme les habitudes culturelles. Et si on considère que retirer un foulard que c'est un signe de conviction religieuse, alors il faut repasser à l'uniforme. Parce que dans la manière dont les gens s'habillent, dont les jeunes s'habillent, il y a des multiples cultes, tribus qui se manifestent par les vêtements qu'on porte, par les signes qu'on porte. Vous allez décider, on a organisé une présentation du livre de Taïou, je ne sais pas tellement longtemps, et une de nos amies, Farida Tahar, qui est la seule conseillère communale bruxelloise socialiste qui porte le foulard, a interpellé quelqu'un qui était là et lui a dit, au fond, qu'est-ce que vous en savez que mon foulard est religieux? Il s'est dit, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez la part de religion qu'il y a dans mon foulard?
rapidement.
Oui, oui, oui.
Trois points. Bah, on va peut-être. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a qu'en France, c'est un pays francophone, donc on a cette conception si singulière. Ça va pas si mal dans le monde entier. Ben, je pensais l'avoir expliqué tout à l'heure. C'est parce que tout simplement, la laïcité est un produit français, un produit francophone, ou en tout cas latin.
Et quand vous dites que c'est pas latin. En Italie, en Espagne, Portugal, c'est pas comme ça.
Mais il existe une laïcité, je peux vous garantir, dans les pays latins.
Mais dans l'école, elle est inclusive.
Et donc, elle n'a pas franchi, en tout cas, la sphère latine. Parce que même en Amérique latine, que ce soit au Chili ou au Brésil, vous verrez qu'effectivement, il y a place pour une conception de la laïcité. À la française, à la manière dont nous l'entendons, la laïcité politique, quoique je n'aime pas mettre l'adjectif derrière le mot, vous l'avez compris. Et vous me dites, ça va tellement mieux ailleurs.
Ça va pas si mal.
Alors, pas mieux ni pire. Ben, je pense que oui. Si vous craignez les écoles musulmanes en Belgique, ben, je crois qu'il y en a plus en Grande-Bretagne qu'en Belgique. Vous m'excuserez beaucoup. Il y en a probablement plus aux États-Unis qu'en Belgique. Vous m'excuserez beaucoup. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que ce multiculturalisme-là soit plus édifiant, plus émancipateur pour les populations qui, effectivement, sont censées en être protégées que notre interculturalisme, celui qu'en tout cas que l'on propose ici. Donc, vous pouvez avoir une conception différente, hein, je ne le discute pas, mais ça ne me convainc pas. Je dis, votre argument ne me convainc pas. Vous aviez évoqué le port du voile comme si vraiment il faisait l'objet d'une critique. Je vous rappelle accessoirement que, en tant que laïc, j'estime que le port du voile est le fait d'une liberté absolue d'expression et qu'il n'est pas question de l'interdire où que ce soit. Si je parle d'exception, c'est parce qu'il s'agit bel et bien d'exception. C'est-à-dire que d'une manière générale, c'est la liberté d'expression que nous défendons. Et je ne vois pas en quoi, subitement, nous aurions effectivement un regard discriminant par rapport aux gens qui expriment leur conviction, qu'elle soit confessionnelle ou non confessionnelle, qu'elle soit politique ou non politique, qu'elle soit de tout ordre que ce soit, tant qu'on respecte les lois. Hein? Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas où est la différence. Je ne vois pas en quoi consiste effectivement l'objection. Les deux exceptions, nous les connaissons. La première concerne un rapport de pouvoir vis-à-vis d'un usager, ce qui me garantit précisément que l'usagère qui porte un voile sera traité de manière absolument neutre par un fonctionnaire public, c'est que lui-même ne porte pas de voile ou ne porte pas le kippa ou ne porte pas un col romain. C'est ça ma conception. Hein. C'est la défense du plus faible par rapport au plus fort, pas l'inverse, évidemment. Et quant aux enfants, mais j'ai la double protection. Dans un rapport à l'enseignant. On sait très bien l'autorité naturelle que peut exercer un enseignant sur un enfant, l'autorité morale qu'il peut exercer indépendamment de partage de savoir. Donc ce rapport d'autorité du plus fort vers le plus faible doit être corrigé. C'est là qu'il faut place pour une modestie, c'est là qu'il faut place pour se mettre à la disposition, au service de l'usager, et non pas le contraire. Je rappelle que c'est uniquement dans l'expression d'un pouvoir que la laïcité trouve droit de citer. Je pourrais faire une exception sur cette question, parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué en filigrane, et je serais de mauvaise foi si je ne revenais pas là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question quand il s'agit, par exemple, de l'entreprise. Que faire dans l'entreprise? Là, ma position est beaucoup moins assurée. Est-ce que ça doit passer par un règlement collectif du travail? Est-ce que ça passe par un choix de l'entreprise? Est-ce qu'un entrepreneur est susceptible de refuser l'accès, quand bien même la personne qui sera amenée à travailler n'aurait pas de contact avec le public ou ne serait pas en mesure, en tout cas, d'avoir une incidence, une influence, une autorité par rapport au public? Ça, c'est une question que je n'ai pas personnellement résolue. Et je vous le concède volontiers.